Moi, ce qui m'a travaillé beaucoup cette semaine, et c'est une image que le Seigneur m'a donnée pour l'Église, c'était l'image de l'aimant, un aimant. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Et la première chose, c'était, il y a certaines choses qui ne font pas de bruit, mais qui changent tout. Il y a des forces qui agissent, qui sont invisibles, qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, mais qui peuvent tout changer. Par exemple, si vous arrêtez d'aimer quelqu'un, ça ne se ressent pas, c'est pas comme un vent impétueux, mais vous voyez, quand vous coupez le flot de l'amour envers quelqu'un, ça peut tout changer dans une relation. Quand vous laissez une racine rentrer en profondeur dans votre cœur, ça peut changer votre comportement, ça peut tout changer dans votre vie. Quand vous laissez la braise et le feu de l'esprit s'éteindre en vous, également, ça peut tout changer. Et c'est des choses qui ne se voient pas, au premier abord. C'est des choses qu'on ne sent pas. Ça se fait au-dedans de nous, en profondeur de notre cœur. Et l'aimant, il possède deux lois. Alors, la première, c'est que l'aimant, pour que le magnétisme se fasse, pour que les choses, un aimant attire quelque chose, il faut que l'aimant puisse être en contact avec quelque chose qui est de la même nature que lui. Si vous mettez du plastique en face de l'aimant, il ne se passerait rien. Vous laissez ça 200 ans, un aimant et un plastique, ils n'ont pas la même constitution atomique, il ne se passera strictement rien, c'est de la physique. Mais le magnétisme va nécessiter un élément ferreux. Et parce qu'il y a le même élément chez l'un comme chez l'autre, la force commence à agir. Je dis, Seigneur, effectivement, c'est assez ressemblant avec ce qu'on peut vivre nous dans notre vie chrétienne. Et ensuite, le deuxième élément important, c'est que la force est d'autant plus proche que les deux éléments se rapprochent. Au plus ils sont à proximité, au plus la force devient incontrôlable et puis il se passe quelque chose. Et finalement, c'est une image claire de ce que peut être ou ce que peut ne pas être notre vie spirituelle. Parce que à l'inverse, au plus tu t'éloignes de cet aimant, au moins la force attire l'objet, le fer ou l'autre aimant. Est-ce que ça vous parle? Vous avez déjà, on a tous joué en tant qu'enfant, hein, avec deux aimants. Et chac! Et on essaye comme ça pendant 20 minutes d'essayer de dire, non, tu ne te rapprocheras pas. Et chac! Et chac! Moi, j'ai fait ça des heures. Ça a laissé tranquille mes parents. Mais vous, parents, donnez des aimants à un petit enfant, là, entre 3 ans et 8 ans. Vous allez voir, vous allez être peinard pendant une petite après-midi. Alors, vous voyez, c'est des choses qu'on apprend, qu'on expérimente, et c'est important. Alors, on sait très bien, on entend ça souvent dans nos milieux, que le péché met une distance entre nous et Dieu. C'est juste. Lorsque tu pèches, lorsque tu goûtes, lorsque tu vis dans le péché, immédiatement, il y a un voile qui se met entre Dieu et toi. C'est pas que Dieu ne t'aime plus, c'est juste qu'il te regarde maintenant, il te voit. Mais il n'y a plus cette interaction systématique avec toi. Il te regarde toujours, il t'observe, mais tu te sens distant de Dieu. Donc, le péché amène une distance dans nos vies et dans notre proximité à Dieu. Et il y a une chose dont Dan a parlé, et c'était important. Et je me suis dit, tiens, il va falloir qu'on en reparle avec l'Église, parce que ça nous concerne. Il nous a parlé du fait que, finalement, souvent on se rend compte que il n'y a pas que le péché qui nous éloigne de Dieu, mais il y a aussi notre négligence envers ce que Dieu a déjà fait pour nous, ou envers ce que Dieu nous procure. Et on peut être négligent dans notre relation avec Dieu, et ne plus considérer notre relation avec Dieu comme un trésor, comme quelque chose d'essentiel, et on devient négligent. Et on a entendu le témoignage de ce matin, Noémie et puis Julien ont commencé puissamment dans l'esprit. Moi, je les ai vus donner leur vie à Jésus, je les ai vus être touchés par la puissance de Dieu, je les ai vus être baptisés du Saint-Esprit, j'ai vu. J'étais là, je suis témoin. Mais vous voyez, comme tout à chacun, on peut commencer à négliger le bon commencement. Et on fait comme cet aimant, on prend de la distance avec notre premier amour et automatiquement, Seigneur, parle-moi, parle-moi, et on n'entend plus sa voix. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. On sait qu'on peut vite retrouver l'intimité avec Dieu, mais parfois on prend un jour, deux jours, deux semaines, trois semaines, loin de la présence de Dieu. Mais on reste dans nos habitudes. On reste dans peut-être notre fonctionnement chrétien. Mais il n'y a plus cette sensibilité. On perd la sensibilité. Alors, ce qui est vraiment triste, c'est que voilà, beaucoup de chrétiens vivent vraiment suffisamment loin. C'est tout juste, vous voyez, comme les morts, c'est suffisamment loin. Ils ne sont pas assez proches, mais ils sont suffisamment loin pour perdre leur sensibilité spirituelle. Incroyable. Et c'est un drame qui nous arrive tous. Personne ne peut dire ici, non, moi, la puissance de Dieu est sur moi, je suis loin. Heure après heure, je marche dans la victoire. Ouais, c'est bien, t'es très positif, mais t'es influencé, influençable, comme tout le monde. Et la réalité, c'est que tu vas devoir te discipliner pour dire, Seigneur, je veux rester près de toi. Donc c'est un bruit ambiant. On aime Dieu, mais on tombe dans un bruit. On tombe dans un brouillard, le bruit des écrans, on l'a entendu, c'était un témoignage. Le bruit des soucis, le bruit de nos propres ambitions. Je réussirai ça quand j'aurai tel âge. Et c'est cette parole qui te tient comme ça pendant des années. C'est pas forcément Dieu qui te l'a dit, mais toi, t'es là et tu suis cette pensée. Le bruit des blessures. Ah, j'ai été blessé. Ça me fait mal encore. Et ce matin, on était à l'intercession et quelqu'un a dit, a parlé de, on a prié pour le traumatisme, les traumatismes qu'on a pu vivre. On a tous vécu des traumatismes à un moment donné, plus ou moins. Mais l'intensité de ton cœur quand il ressent, t'as pas besoin d'aller à la croix et souffrir comme Jésus pour ne pas vivre un traumatisme. Vous comprenez? Il y en a, ils vivent des guerres. Et il y en a un qui est rejeté par son père, et pour eux, dans leur cœur, c'est le même traumatisme. Je ne sais pas si vous... Dans la manière dont le cœur est blessé, il y en a un, c'est plus... Mais ce que je veux dire, c'est que notre cœur subit les choses. Et on priait pour les traumatismes, et instantanément, alors qu'on était dans la prière, le Seigneur m'a interpellé, m'a dit, rappelle à l'Église que j'ai subi, et j'ai accepté de subir le plus grand des traumatismes, pour que tu sois libre. C'est d'une simplicité enfantine et pourtant difficile à mettre en action. De regarder ses traumatismes en face, ses faiblesses en face, et Dieu dit, Jésus, t'as payé pour ça, 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 ça. J'accepte, je décide d'être libre. C'est mon choix. Et parfois on néglige ça. On reste dans notre blessure. Et je suis, et machin, et ceci, et cela. Et une distance intérieure se crée entre toi et Dieu. Alors je reviens sur le verset qui nous a lancé, c'est le verset que je vous avais donné la semaine passée avant de lancer le jeûne et prière. C'est une histoire qui nous parle d'Abraham avec le cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Et en Genèse chapitre 18 verset 1, il nous est dit que avant ce passage au verset 18, l'Éternel apparut à Abraham. Comment il est apparu, on ne sait pas. Le texte ne nous le dit pas. Après, vous avez les deux anges qui vont arriver. Allez lire le chapitre. C'est intéressant, mais il apparut à Abraham. Comment? Je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est comment était Abraham au moment où Dieu lui apparaît. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc pendant la chaleur du jour, en Orient, on ne travaille pas. Il fait trop chaud. Et puis souvent, c'est l'heure de la sieste, tout est calme. Mais Abraham est là, devant, assis devant sa tente, assis devant toute sa vie, toutes ses préoccupations, et il nous est dit plus tard qu'il regardait l'horizon. Il est assis et il contemple. Il contemple les choses, paisible, calme. Il se positionne, il est à l'entrée de sa vie. Entre sa réalité humaine qui est derrière lui, ses troupeaux, ses serviteurs, ses occupations, ce qu'il doit organiser. Et lui, il est assis paisiblement et il regarde l'horizon. Il est profondément calme. Et à ce moment-là, Dieu lui apparaît. Dieu ne lui apparaît pas dans le bruit de sa réalité, dans ses préoccupations, dans ses occupations, mais au moment où il est positionné calme, regardant l'horizon. Incroyable. Il n'est pas distrait. Mais notre génération possède vraiment un problème. C'est que systématiquement, lorsque le calme s'installe dans nos vies, on le comble nous-mêmes parfois par du bruit. Ah, j'ai 5 minutes, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ah, j'ai 10 minutes, ah! Il faut que je sois rentable aujourd'hui. Et je regarde ma liste de choses à faire. Et puis le dimanche, ah Jésus, parle-moi. Ah bon? Dieu t'attend assis devant ta tente, le dos à toutes tes préoccupations. Et Dieu, je regarde l'horizon. Seigneur, où est-ce que tu m'attends? Et Dan nous a interpellés là-dessus, sur le fait d'être dans la présence de Dieu, de rechercher, de chercher cette sensibilité-là. Alors, dès qu'il y a un vide, on le remplit. Et Dieu nous donne une discipline. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ça, et je me suis rendu compte que c'est quelque chose d'essentiel, qu'on fait parfois de manière instinctive. Et c'est ça que j'aime avec Dieu. C'est que parfois, on voudrait tout enseigner, mais il y a des choses qu'on vit naturellement. Vous connaissez ça? Vous entendez l'enseignement et vous dites, tiens, c'est vrai que je le vis naturellement, mais j'ai jamais été enseigné sur ça. Alors souvent, on pense qu'on doit enseigner, parce que si on enseigne les chrétiens... Non, merci, le Saint-Esprit, il travaille en nous. Et il nous met dans des positions où on peut aller à sa rencontre sans même avoir eu un enseignement. Et quand l'enseignement arrive, ah, ben c'est ce que je vis. Et on se rend compte des choses parfois 10 ans après. Pas parce qu'on est rentré dans une routine religieuse, mais parce qu'il y a quand même notre relation personnelle avec Dieu, où Dieu nous parle, et c'est intéressant. Mais il y a quelque chose d'essentiel, c'est la méditation. On n'en parle pas beaucoup, et je parlais à un pasteur récemment, il me disait, tu sais, nous on a vécu la guerre au Congo, ma famille était du côté des rebelles, et il ne croyait pas en Dieu, il voulait rien entendre, son père était un pasteur, et il dit, mon père pratiquait la méditation constamment. Tu vois, pour une fois on n'entend pas la prière, la louange. Oui, on aime bien ça, nous, hein. La méditation. Et il dit, c'est rigolo, parce qu'à chaque fois qu'on était dans un village, et c'est comme ça que j'ai pu croire, c'est que lorsque, donc ils étaient des boucliers humains, hein, là-bas au pays, et puis lorsque y a un bombardement arrivé, le père, il disait, on change de ville. Il changeait de ville, et puis quelques minutes après, c'était bombardé. Et ça, systématiquement. Et il s'est dit, mais c'est pas possible, il se passe quelque chose dans sa méditation, Dieu lui révèle. La méditation t'amène à entendre la voix de Dieu et à connaître la révélation. Si tu cherches une révélation dans la louange, c'est peut-être pas le bon endroit. Une révélation dans la prière, c'est peut-être pas le bon endroit. La Bible nous parle de cette révélation qui vient d'une intimité et de ce silence, de cette écoute avec Dieu. Et parfois, on mélange un peu tout, et puis on va dans la prière pour avoir une révélation. Oui, mais la question là, c'est de, est-ce que ton cœur est disposé? Alors, je ne vous parle pas ici de la méditation selon le monde. Selon le monde, la méditation, c'est « Viens, tu as eu une semaine chargée, vide-toi. Mets-toi en position et vide-toi. » Mais le problème, c'est que ce n'est pas du tout biblique. C'est pour ça que lorsqu'on parle à certaines personnes, écoute, si tu vides ton esprit, il y a d'autres choses qui vont rentrer. C'est pas je ne suis pas quelqu'un de superstitieux, c'est juste un principe biblique. Et c'est une réalité. La Bible nous parle de toujours être rempli. Elle ne nous parle pas d'être vidé, elle nous parle d'être rempli. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Nous avons besoin d'être habités par la parole de Christ. Et c'est ce que Julien y a dit. En fait, j'étais habité par toutes sortes de choses, mais pas par la parole de Dieu. Et pas par la parole de Dieu religieuse, hein, mais la parole de Dieu qui est vivante. Josué 1, verset 8 nous dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Oh, ça nous intéresse. Alors, méditer, c'est pas lire rapidement un verset, hein, pour soulager notre conscience. Tiens, ce verset, il me va bien, je soulage ma conscience, je suis dans le bon. C'est pas ça. Méditer, c'est rester, demeurer dans la présence de Dieu. Et en fait, c'est même plus fort que ça. C'est rester, demeurer dans la parole de Dieu jusqu'à ce que ce ne soit plus juste une information, mais que cette parole prenne possession de mes pensées, prenne possession de mon cœur. Il y a un transfert qui se fait entre nous et cette parole. Ça pénètre notre cœur. Alors au début, tu lis ta parole. Souvent, les jeunes chrétiens, on leur dit, tu dois lire ta parole. C'est vrai, lis ta parole. Au début, tu lis. Parce que tu as besoin de comprendre intellectuellement. Tu as besoin de comprendre l'ensemble de l'évangile, le contexte, etc. Donc au début, tu lis. Puis à un moment donné, la parole commence à te lire. Elle lit ton cœur. Tu es face à toi-même. Au début, tu regardes le texte, mais à un moment donné, le texte regarde à ton cœur, à tes intentions les plus cachées. Et tu lis un verset, tu dis, ah, ça me fait quelque chose là. À ce moment-là, tu es dans la méditation. Il y a une connexion qui se fait. Tu es en train de t'approcher. C'est les deux aimants qui s'approchent. Alors il ne faut pas oublier que la méditation est nécessaire, le temps que tu vas passer dans la parole, le temps où tu vas être devant ta tente, à regarder, à scruter l'horizon, va faire que tu vas commencer à entrer dans une proximité avec Dieu. Est-ce que tu sens quand tu n'es pas proche de Dieu? Tu le sens, hein? Tout en toi est barbouillé. Mais quand tu commences à te rapprocher, c'est, tiens, c'est comme si ta sensibilité, ah, et tu continues, tu fais un pas de plus. Ah, c'est bon là, je sens que je touche quelque chose. Ah, et tu fais un pas de plus. Et là, tu sens que tu commences à être rempli. Dieu est en train de remplir ton cœur et en train de remplir ton habitation. Galates 5, verset 17. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux natures en nous. Et il y a deux aimants en toi. Deux aimants différents. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils ne sont pas juste différents, ils ne sont pas complémentaires. Ils sont opposés. Par nature, ils sont opposés. C'est du plastique et du fer, la chair et l'esprit. Opposés entre eux. La chair est attirée par l'orgueil, l'indépendance, les passions, la recherche de soi, le plaisir sans Dieu, la colère, la comparaison, etc., etc., etc. À chaque fois que tu es attiré vers ces mots-là, vers ces sentiments-là, vers ces sensations-là, sache que c'est l'aimant de ta chair qui est attiré vers un autre aimant. Lorsque tu es en colère et que tu rencontres quelqu'un qui te fait une queue de poisson sur la route, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves ta main. Oh! Les deux aimants s'attirent. Tu comprends? La négligence de l'autre t'énerve et t'attise. Peut-être le mec, il est super sympa, que la veille, si tu l'avais rencontré, t'aurais passé une bonne soirée avec lui, t'aurais invité. Mais là, il t'a fait une queue de poisson. Et t'es chargé, toi. Tu vois, t'es pas électriquement neutre. T'es électriquement négatif, ce jour-là. Bah, tout ce qu'il y a autour de toi de négatif va t'attirer. Hier, je suis allé au foot avec mon fils. Je peux vous dire que le foot, aujourd'hui, c'est quelque chose. Hein. Les parents sont chauds. Le gamin, il y a 12 ans. Ah, moi, je suis là, j'éteins des feux, comme ça. Linda, calme-toi. Ah, Chanel, elle vient un match, elle part. Elle dit, moi, je comprends pas, il y a un esprit sur tout ça, je comprends pas. Bon, elle aime pas le sport non plus. Et vous voyez, ça travaille le cœur. Alors, mon fils qui est là-bas, il jouait bien, et je l'ai encouragé. Parce que dès qu'il y a un problème d'arbitrage, c'est l'arbitre! Je dis, si c'était là, je dis, écoute, tu vois toute ta frustration, tu vas la canaliser sur autre chose, tu vas mettre des buts, au lieu d'envoyer toutes les reproches sur l'arbitre. Et on doit déjà leur apprendre, jeunes, à gérer cette frustration-là, parce qu'il y a un aimant qui les attirera toujours. Et on doit prier pour nos enfants, on doit prier pour nos ados qui traversent ce monde en tant qu'enfants de Dieu. Ici, on les éveille à la foi, et puis de l'autre côté, ils sont éveillés à toutes sortes de choses. Et c'est important pour nous vraiment d'intercéder, d'entrer dans la prière pour eux, de dire « Seigneur, ils ont tellement besoin de toi pour affronter ces situations. Donne-leur ton cœur, donne-leur ta sensibilité. Qu'ils soient tellement attirés par toi que le monde, eh bien, les révulse. » C'est difficile, hein? Alors, l'esprit est attiré par la sainteté, la vérité, l'humilité, l'amour, la paix, la justice. Et lisez votre Bible si vous voulez plus de mots. Romains 8, verset 5. « Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Le mot « s'affectionne » est un mot fort. Ça veut dire que ton cœur va pencher naturellement vers ces choses. Tu n'as pas besoin d'y réfléchir. Naturellement, tu penches vers ces choses parce que tu t'es affectionné. L'amour de l'argent va faire que tu vas t'affectionner pour certaines choses et tes yeux, ton regard, tes intentions, tes décisions vont se pencher naturellement vers ces choses-là. Et tu vas même prier avec Dieu, hein, « Seigneur, conduis-moi, machin. » Mais ce n'est pas Dieu qui te conduit, c'est l'amour de l'argent. Et là, je vous ai juste fait un exemple. Il y en a tellement. La chair ne sera jamais attirée par la repentance. Parce que la chair passe son temps à vouloir se justifier. La chair n'est pas attirée par la croix. Ta chair n'est pas attirée par Jésus à la croix. Ne me mens pas, s'il te plaît. Ta chair n'est pas attirée par ça. Parce que ta chair, ce qu'elle veut, c'est le trône, la réussite, qu'on te célèbre. L'esprit, lui, reconnaît Dieu. Comme le fer reconnaît l'aimant, ils s'attirent entre eux. Ton esprit est attiré par les choses de Dieu. Il est éveillé à certains moments. Tu dis, ah, tiens, c'est l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi la méditation, c'est une guerre spirituelle. C'est un temps que tu prends avec Dieu pour te préparer, te disposer, pour rapprocher ton esprit, pour faire toujours un pas de plus vers l'esprit de Dieu. Tu t'attires, tu médites, il y a une proximité qui se fait, tu t'approches, et d'un coup, t'es collé à Dieu. Incroyable! Alors dans ta vie, tu dois toujours choisir de nourrir soit l'autre, ou nourrir l'un, ou nourrir l'autre. Plus tu t'approches, plus l'attraction devient forte. Jean 15, versets 4 à 5. Rebecca, tu peux venir? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Jésus ne dit pas travaillez davantage, agitez-vous davantage, efforcez-vous davantage. Il dit demeurez en moi. Parce que la puissance de Dieu ne naît jamais, jamais dans l'agitation. Alors, Rebecca, quand elle a commencé ses études, tu peux venir? Eh bien, on priait pour elle. Vous vous souvenez, on a beaucoup prié, on l'a beaucoup soutenue dans la prière, etc., etc. Et le Seigneur m'avait interpellé en disant, Rebecca, tu vas être vraiment une bénédiction. Tu vas manifester Christ profondément dans ta réalité de travail. Et elle est venue me voir un jour, elle dit, Alexis, il faut que je te raconte un témoignage avec un patient. Donc, j'aimerais que tu le racontes parce que ça nous encourage. Donc, on est bien sur la même histoire. Hein, tu n'as pas changé entre-temps. Bon, 5 minutes, c'est bon ou tu vas me faire 15 5, ça ira. Allez, vas-y, Rebecca. Je t'en
prie. Merci. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Rebecca. Et en octobre, j'ai commencé donc mon internat en anesthésie réanimation. Alors, avant ça, j'ai beaucoup prié. Parce que je ne voulais pas être juste médecin, mais je voulais vraiment servir Dieu là où je me trouve. Et je me rappelle que Chanel m'a un peu briefé avant. Elle m'a dit, vous les anesthésistes, vous tirez beaucoup la tronche, donc tu feras attention à ça. Et quand j'étais étudiante, mes patients avaient déjà tendance à me dire qu'ils voulaient que je reste près d'eux. Parce que ils ressentaient de la paix quand j'étais à côté d'eux. Donc, je restais un petit peu à côté, le temps qu'ils s'endorment. Après, je m'en allais. Et donc, j'ai commencé à exercer donc, en octobre. Et j'ai vraiment beaucoup de témoignages, mais je suis restée un peu ciblée. Il y a à peu près 2 mois, alors j'ai une collègue qui est venue vers moi et qui est venue en courant me dire, Rebecca, je voulais absolument te voir parce que je voulais te dire que ton visage, il est lumineux. Tu as de la lumière dans le visage. Et j'ai un peu rigolé, on a plaisanté, puis j'ai continué ma journée. Le même jour, j'ai un patient que j'ai anesthésié, qui s'est réveillé. Et il s'est réveillé plein de gratitude. Il était vraiment, il disait merci à tout le monde. Il parlait beaucoup. Et le chirurgien me regarde. Il me dit, mais qu'est-ce que tu lui as donné? J'ai jamais vu ça. J'ai dit, je t'assure, c'est le même cocktail que tout le monde. Alors, je l'emmène en salle de réveil. Et là, il commence à hurler dans la salle de réveil. Il dit à tout le monde, regardez là, elle est lumineuse. Elle brille comme le soleil. Elle est merveilleuse et tout ça. Et j'étais un peu, on a rigolé avec les infirmiers, ils me connaissent un petit peu, comment je reste avec mes patients, comment j'interagis avec eux. Alors on a rigolé un petit peu, puis après je suis partie. Alors quelques jours plus tard, je suis avec un patient en consultation. Et dès que la consultation commence, il y a une voix Dieu me dit de prier pour lui. Alors, habituellement, je prie pour mes patients. Parfois, quand ils sont endormis, je prie pour eux selon ce que l'esprit me guide. Et là, le patient était éveillé, donc il fallait un procédé différent. Alors, j'attends que la consultation se termine et je lui demande s'il veut bien que je prie pour lui. Il me dit oui, ce qui m'étonne. Alors, je lui repose la question pour être sûr qu'il ne se sent pas obligé. Il me dit encore que oui, il est d'accord. Alors, je me lève et je m'approche de lui et je lui demande si je peux lui tenir la main. Il me donne ses mains, je lui tiens la main. Et il se met à pleurer abondamment. Je ne pouvais pas l'arrêter. Il pleurait tellement que j'ai patienté un petit peu. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, je vais commencer à prier. D'abord, je lui ai demandé si je pouvais le prendre dans mes bras, parce que comme il pleurait beaucoup, il me dit oui. Alors je prends dans mes bras, je lui fais un gros câlin, et il continue à pleurer. Il ne s'arrêtait pas, alors je commence à prier, et je ne me rappelle pas très bien de la prière que j'ai faite, mais ça parlait beaucoup d'amour et du fait que Dieu avait un regard sur lui. Donc j'ai prié pour lui, j'ai terminé, et il continue à pleurer. Il ne s'arrêtait pas, alors j'ai laissé le temps qu'il lui fallait. Puis j'ai commencé à discuter avec lui, et là il me dit qu'il est catholique, enfin c'est un monsieur de 70 ans, donc voilà, il a quand même bien vécu. Il me dit qu'il est catholique, et il est vraiment ému que quelqu'un puisse prier pour lui, parce que jamais une personne n'a prié comme ça pour lui, alors qu'il est entouré de croyants, etc. Il a grandi dans une famille chrétienne et tout ça. Il était énormément touché par mon geste, et il faisait que me le répéter. Alors, il continue à parler un petit peu de sa vie, et là, il m'explique qu'il est polonais, qu'il a connu le communisme. Et là, je lui dis, ça tombe bien, mon pasteur est aussi polonais, il a aussi connu le communisme, il vient de Pologne, il s'installe en France. Et donc, je commence à lui parler un petit peu d'Antoine, il était énormément touché aussi par le témoignage et par toutes ces coïncidences, on va dire. Et donc, à la fin, il m'a demandé s'il pouvait me faire un don à l'église où je priais. Alors moi, je commence à lui parler du site internet, lui dire, c'est l'église Le Phare, c'est à Lille. Et je commence à lui donner les coordonnées. Et puis là, je le vois en train de chercher dans son portefeuille et il me sort de l'argent. Il me dit, est-ce que tu acceptes de prendre cet argent? Au début, je refuse parce que je ne prends jamais l'argent des patients, comme je travaille à l'hôpital. Et il insiste vraiment beaucoup. Il me fait comprendre que je ne te laisserai pas partir si tu ne prends pas cette offrande. Donc, il me l'a remise et je suis venue la porter le dimanche qui a suivi ici au culte. Et je remercie vraiment le Seigneur parce que c'est un vieil homme de 70 ans. Il a vraiment une toute petite retraite, mais il a vraiment voulu donner quelque chose à Dieu pour le remercier de l'interaction qu'il y avait eu entre nous deux. Et mis à part tout ça, je rends vraiment gloire à Dieu parce que je me suis toujours dit que je ne voulais pas exercer la médecine. Je veux servir Dieu à travers la médecine. Et c'est ça, en fait, il m'a permis de vivre tellement de témoignages depuis que j'ai commencé. Il y en a tellement, je ne pourrais pas tous vous les raconter. Mais je vis tous les jours des choses incroyables. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors, gloire à Dieu.
Magnifique, Rebecca. Je te réinviterai une prochaine fois. La prochaine fois, on aura droit à Lebel et Sephora. Ils veulent tous témoigner. Dieu les bénit, c'est incroyable. Alors, vous voyez, Dieu est bon et on peut être des témoignages vivants là où nous sommes. Antonia et l'équipe de louange, si vous pouvez venir, je vais terminer. Puis on va passer un temps. On va demander à Dieu de vraiment travailler nos cœurs. On va lire 2-3 versets encore. Il faut savoir que j'aimerais insister sur ce point-là. Parce que tu seras proche de Dieu, il va se passer des choses entre toi et le Seigneur, comme on l'a entendu au travers de ces témoignages. Abraham était là devant sa tente. Mais la Bible nous dit, Genèse 18, verset 17, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Donc là, il y a une histoire de confidence. Dieu veut se confier à Abraham. Et Genèse 18, verset 20-21 nous dit « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru. C'est pourquoi je vais descendre. » En fait, Dieu avait déjà décidé d'aller à la rencontre de ces villes. Il n'y avait pas besoin d'Abraham à ce moment-là. Est-ce que tu me suis ? Dieu a déjà dans l'intention d'aller dans ces villes. L'histoire est déjà en marche pour Dieu. Mais il s'arrête et il dit, je ne peux pas cacher ça à Abraham. Il sait ce qui va se passer. Vous pouvez commencer à jouer tranquillement. Et il sait ce qui va se passer, mais il s'arrête, c'est comme si Dieu s'arrête, et Abraham qui est là, tranquillement, devant sa tente, il regarde, disponible, il est disponible, et là il lui dit, je ne peux pas lui cacher ça, je ne peux pas lui cacher ce que je vais faire, il faut que je lui parle. La Bible nous dit qu'Abraham était l'ami de Dieu, n'est-ce pas? Et nous sommes plus ses serviteurs, oh là, on a une lampe qui a pété, oui c'est sympa,
Jésus, il y a la Pentecôte qui arrive. Écoutez, on va refaire une offrande pour les outils de l'église, s'il vous plaît. Hein? Alléluia. Dieu est bon, hein? Il vous a interpellé en direct live. Non, je rigole, hein? Ne prenez pas au mot ce que je viens de dire. Jean 15, verset 15, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Le serviteur reçoit des ordres, mais l'ami reçoit le cœur. Et Dieu est interpellé, il dit, je veux partager mon cœur à Abraham. Lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu peut pas s'empêcher lorsqu'il va faire quelque chose dans ta famille, lorsqu'il va faire quelque chose dans ton travail, lorsqu'il va intervenir quelque chose qu'il a déjà décidé souverainement. C'est pas toi qui fais plier Dieu. C'est pas toi qui le tapes pour qu'il fasse quelque chose. Mais quand tu te rends disponible, il dit, je vais lui parler. Et Abraham, vous allez voir sa réaction. Il commence pas à plaider, à se justifier. Mais non, mais tu sais, Dieu, eh bien Lot est là-bas, j'ai beaucoup d'affection pour lui, épargne-le s'il te plaît. Il commence pas à reprendre Dieu sur sa décision. Dieu a décidé. Mais il lui dit, il va venir chercher Dieu sur sa connaissance de qui est Dieu. Il sait que Dieu est juste. Et il va dire, Dieu, s'il y avait 50 justes, et si même il y en avait 40, et il sait que Dieu ne peut pas ne pas être juste envers lui-même. Vous comprenez ce que, il peut pas se renier Dieu. Mais parce que Abraham le connaît profondément, son intercession est différente. Parce que l'intercesseur, avant de parler, il entend. Et il entend le cœur de Dieu. C'est un ami qui se confie. Vous savez, moi j'aime mes amis. Parce que pour moi, un ami, c'est quelqu'un, lorsqu'il a une joie, il va être heureux de te la partager. Parce que tu vois, il veut partager ça avec toi. Et il sait que tu vas te réjouir avec lui. Mais un ami, c'est aussi celui qui va te partager ses difficultés. Ah, tu sais, c'est dur, ça fait mal, c'est compliqué. Et toi, tu vas pleurer avec lui. Bah, c'est la même attitude de Dieu. Il vient, et lorsque tu es proche de lui, il va dire, hey, tu sais ton collègue là, j'ai vraiment mal au cœur pour lui. J'aimerais lui parler. Et toi, tu vas dire, ah ouais, Seigneur, ben écoute, je vais prier pour lui maintenant. Et lorsque tu vas aller au travail, tu vas être bénissant. En toute simplicité, dans ta relation, dans sa proximité. Mais la proximité ne s'arrête pas là. Acte 1, verset 14. Il y avait Abraham et sa tante. Dieu a décidé de venir habiter en nous. Je demeure en vous, il dit. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Nous, l'Église, si vous vous arrêtez à ma prédication là, vous allez dire, c'est bien, je rentre chez moi, je passe plus de temps avec Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Et Dan nous a interpellés. Il nous a dit, c'est bien, mais on est une société individualiste. Et parfois, on est individualiste dans l'Église. On est même individualiste dans notre foi, ma façon de prier. Ma méditation, ma façon de lire la parole, mon enseignement, mon appel, mon ministère. C'est insupportable pour Dieu. Parce que lui, il dit, je veux vous rencontrer mon église. Vous tous. Pas seulement personnellement. Oui, personnellement, je viens de vous le dire. Dieu, lorsque tu es dispersé, en dehors de l'église, veut t'utiliser de manière spécifique là où tu te positionnes. Mais quand on est ensemble, l'église rassemblée, une église mobilisée, Dieu veut nous parler à nous tous. Et dit, j'ai un plan pour cette église, j'ai un plan pour le local, j'ai un plan pour la rue. Est-ce que vous êtes capable d'entendre? Mais on est tellement sur mon appel, mon service. Est-ce que Dieu nous parle? Et à chaque fois qu'on vient à l'église, c'est pour moi, et encore pour moi. Mes souffrances, peut-être quelqu'un priera pour moi et je serai béni. Mais lorsqu'on va changer d'orientation et qu'on va dire, Seigneur, notre ami, parle-nous ensemble. Là, on va pouvoir commencer à entrer dans des choses nouvelles. Dan nous a parlé du jeûne, de dire maintenant, il faut. Vous voulez la puissance, vous voulez l'onction, il y a un seul moyen, c'est le jeûne et la prière. Ce n'est pas au travers des soirées de louange, des réunions d'intercession, de machin, au travers du jeûne et la prière. Parce que tu vas dire, Seigneur, en tant qu'église, on arrive, on est là. Et bravo à ceux qui se sont battus. Hein. Jonathan, il est parti là, au bout de 2 jours, il n'en pouvait plus. Il dit, Alexis, j'ai réussi à faire plus d'un jour, 2 jours, il n'en pouvait plus. Bravo, Jonathan. C'était dur, mais Dieu nous a parlé individuellement. Qu'est-ce qu'il va nous dire en tant qu'Église? Il faut qu'on soit à l'écoute. Alléluia, Seigneur, levons-nous ensemble, on va prier.